vous invite à ouvrir de nouveau vos Bibles dans l'Épître aux Colossiens. Et si vous voulez suivre le déroulement, aussi vos petits carnets. On parlait de bouquins avec Marion. Je viens de lire un bouquin que je n'ai pas amené, mais qui vient de bouleverser ma compréhension de Jésus. Et c'est un bouquin qui s'appelle « Dépasser la croix ». Mark Welsh, c'est son auteur, parle de ce qu'on connaît déjà de Jésus. Du style « Jésus est mort pour moi ». Et ce qui est super chez Welsh, c'est qu'il montre comment, par des pratiques très précises et à l'aide d'une technique de méditation intérieure, on a le pouvoir d'entrer dans une nouvelle dimension au-delà de la croix. Et ça, c'est ce que Welsh développe. Je vous en parlerai. Mais chacune de ces méditations intérieures dont il parle commence par cette prière. Merci pour la croix. Elle est tout pour moi. J'ai confiance en moi pour le grand combat. De tout mon esprit, je t'offre ma vie. Et par mes efforts, je suis bien plus fort. En résumé, être un chrétien debout, un vrai chrétien, c'est dépasser la croix. D'où le titre du livre, hein, « Dépasser la croix ». Et pour ceux qui veulent, je leur donnerai des références du bouquin après. On ne pourra pas l'amener à la plage, mais... Personne n'arrête là. Personne ne m'envoie balader. Personne se lève en me coupant la parole. Si, je suis heureux de vos réactions. Je suis heureux de vos réactions. Parce que sur la base de ce qu'on vient de voir déjà dans Colossiens, on doit dire qu'une telle approche est tout simplement scandaleuse et inacceptable. Inacceptable. Sous des apparences chrétiennes, c'est un type d'approche qui propose une spiritualité totalement anthropocentrique, centrée sur notre nombril. Elle disqualifie l'efficacité de la croix de Jésus-Christ. Elle foule au pied l'évangile, parce qu'elle rajoute quelque chose à l'évangile. Et elle rajoute quelque chose à la croix. On n'a rien besoin d'autre que Jésus-Christ pour l'espérance et pour la croissance. Bon, Mark Welsh, il n'existe pas.
Qu'est-ce que j'allais dire ?
Et pas plus que son bouquin. Mais des copains, des ersatz de spiritualité comme ça, du tout venant pseudo-littéraire, on a des centaines dans le monde, y compris dans les librairies chrétiennes, y compris à la Maison de la Bible, y compris à la CLC. C'est pas parce qu'il y a l'étiquette que dedans, ça va être tout bon. Nous devons user de discernement pour choisir ce qu'on lit, en accord avec l'Écriture, et disqualifier définitivement ce qui ne nous dit pas clairement que en Christ et dans l'Évangile, on a tout ce qu'il faut pour notre salut et tout ce qu'il faut pour notre croissance. Comment tenir le coup? Que faire pour se maintenir éveillé, confiant? Tenir solidement notre position dans la mission que Dieu attend de nous et dans un monde où justement plein de trucs comme ça sortent, sans arrêt. Ça commence par des discussions autour d'un café, si quelqu'un est bien disposé, un jour qu'il est seul et qu'il n'y a pas les autres pour raconter des vannes inutiles et parfois salaces. Qu'est-ce qu'on répond? Comment se positionner? Je pense que le texte qui suit nous éclaire là-dessus. Mais avant, j'aimerais faire un aparté que je n'avais pas prévu de faire, dans lequel je vais faire de la pub. Je déteste quand quelqu'un fait de la pub. J'ai repris quelqu'un dans mon église là-dessus au début de sa prédication. Mais là, je vais le faire parce que j'ai le devoir de le faire. On vient de parler de l'Évangile et je veux confesser devant vous que j'ai été trop rapide tout à l'heure, même si on a été long, sur ce que c'est l'Évangile. On part de l'Évangile. Aussi faut-il savoir ce qu'on met dans le mot. Et alors que Paul fait attention de préciser, et peut-être je suis passé trop vite là-dessus, en me disant, on sait tous, de toute façon, ce que c'est l'Évangile. donc on va réfléchir plus loin. On ne va pas prendre un long moment là-dessus, mais je pense vraiment que si on revient sur le chapitre 1 et sur le verset 14, en rapport avec ce qu'on a dit sur la réconciliation, on a un bon résumé. 1,14. En lui, Christ, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ce monde et cet univers sont à Dieu. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Cette humanité est à Dieu. Et Dieu est le Dieu de la vie et le Dieu du bien, du souverain bien. Ce qui veut dire que chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actes qui mettent Dieu en question à cause du mal qui nous habite ou parce que parfois on regrette la vie qu'il nous a donnée, c'est une rébellion contre lui, inadmissible, qui fait qu'on mérite la mort. C'est pas juste parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est juste que ce soit comme ça. Parce qu'il est le Dieu vivant et vrai, le seul Dieu, et que ce monde est le sien. S'il y avait d'autres dieux, on pourrait changer de pays, comme les païens le croyaient. On irait vers un Dieu qui est plus favorable, ou un Dieu qui tolère plus le péché, et du coup, on pourrait vivre tranquille. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, et il est le Dieu du bien, du souverain bien. Ce qui veut dire qu'on a besoin de son pardon et de sa réconciliation pour vivre et espérer. Sinon, on est sous la condamnation d'un Dieu qui est juste. On est sous la juste condamnation d'un Dieu qui est juste. On revient sur ce verset. En Christ, nous avons la rédemption. Ça veut dire le rachat, le pardon des péchés. C'est ça la réconciliation dont Paul nous parle. Sur laquelle on est passé trop vite, en fait, avant. C'est pas juste qu'on soit passé si vite. Et je m'excuse de ça. Quelle réconciliation ? Par la mort de sa croix, Jésus-Christ paye à ma place le prix de ma révolte. Paye le juste prix de ce que je méritais. Et à la place, Christ à la croix m'offre sa justice, si je crois. Est-ce qu'il y a une meilleure espérance que ça ? D'être réconcilié avec le seul Dieu vivant ? Je pense pas. C'est pas juste que je pense pas, c'est que c'est pas possible de penser autrement. On peut s'auto-persuader que c'est autre chose. Mais ça s'appelle de la révolte contre Dieu. Si on écoute Dieu, eh bien c'est ça l'espérance. Je m'arrête là-dessus. Je prends Paris des heures parce que c'est toute ma vie, ça. C'est pour ça que j'aurais toujours pu faire carrière, j'en sais rien. C'est toute ma vie. Et je pense que ça vaut le coup de faire cette parenthèse qui va rallonger notre moment, je vous assure tout de suite. Parce que je ne vais pas zapper les trucs qu'on va devoir dire maintenant. Et c'est pour ça que je vous présente ces deux bouquins que je vais mettre derrière. Deux bouquins super, de Carson et Keller. L'Évangile, notre fondement. Il explique dans les détails d'une manière très vulgarisée, simple, mais avec deux théologiens de poids, ce que c'est l'Évangile. Et qu'on soit encore en recherche, qu'on se dise « Waouh, c'est super l'espérance chrétienne, mais j'ai du mal à faire le pas. » Ou qu'on se dise « J'ai déjà 15 ans de vie chrétienne et j'ai besoin d'être renouvelé. » Ça, c'est la bombe. C'est super. Et l'autre, c'est Gilbert. Qu'est-ce que l'Évangile ? Et Carson, dont tu nous as parlé avant avec la prière renouvelée. Moi, c'est pareil. Donc, c'est un club. Il a renouvelé ma manière de prier. Et une des questions à la fin sur la prière, comment ce texte éveille notre vie de prière et la nourrit, ça vient de la foi de Carson. Alors, Carson, justement, dit de ce bouquin. Lisez-le et achetez-en un carton pour le distribuer abondamment autour de vous. J'ai lu ça juste dernièrement, donc j'ai pas eu le temps d'acheter un carton. Parce qu'en fait, ça explique ce qu'on entend par évangile. Et qu'on ne laisse personne utiliser le mot évangile pour le fouler aux pieds avec d'autres notions que ce que Dieu a voulu que soit l'évangile. On a besoin de l'éclairage du Seigneur. Et on va voir comment on peut être facilement la proie de mauvaises pensées dans le monde. Je vous invite à prier avant que Nicolas fasse la lecture. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et c'est par lui, par son sang, par le sang de la croix, que tu nous as réconciliés avec toi. Nous voulons ensemble t'adorer, Seigneur. Nous voulons nous laisser recentrer sur toi et nous décentrer de nous-mêmes. Nous voulons mesurer les conséquences de cette réconciliation dans notre vie. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu ouvres les yeux de notre cœur. Je désire te voir. Et voir comment tu t'adresses à mon quotidien pour le changer et le faire être à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Nicolas de faire la lecture. Je vais demander de relire depuis le verset 1 du chapitre 2. Ça nous fait un petit raccrochage de wagon par rapport au wagon de tout à l'heure. Donc chapitre 2 en entier.
Je tiens à ce que vous sachiez combien dure est la lutte que je livre pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour bien d'autres qui ne me connaissent pas personnellement. Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Je vous dis cela afin que personne ne puisse vous tromper par des raisonnements séduisants. Même si je suis absent de corps, je suis à vos côtés en esprit. Et je suis heureux de vous voir tenir bon, rester solide dans votre foi au Christ. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde, et non sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par des hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisé, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes aussi ressuscité par lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Autrefois, vous étiez spirituellement mort à cause de vos fautes et parce que vous étiez des circoncis, des incirconcis, etc., des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par nos dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphant de son fils. Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir. Mais la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité ou de culte des anges, et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Ils ne restent pas attachés au Christ, qui est la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations, et qu'il grandit comme Dieu le veut. Vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre ? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement humains. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse, car elles parlent de religion personnelle, d'humilité et d'obligation de traiter durement son corps. Mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature.
C'est la parole de Dieu, et nous remercions Dieu pour sa parole. Nous avons confiance en l'Esprit qu'il met en nous cette parole pour que nous puissions y obéir. En fait, je pense que l'ensemble de la section que Nicolas vient de nous lire nous montre que la mission d'homme et de femme réconciliés avec lui par Christ, cette mission ne consiste pas à prendre sa brosse à dents et sa Bible et à partir en Afrique subsaharienne, mais d'abord, avec détermination, à rester enraciné en lui. Ça, c'est la première mission de ce que Dieu atteint par sa mission. C'est les versets 6 et 7 qui nous le disent. Et ensuite, deuxième aspect de la mission, avec persévérance et courage, de résister à toute tentative de remise en question de la puissance de la croix et donc de la suprématie totale de Christ. Tous les Mark Welsh de tous les temps et de tous les lieux. J'espère que Mark Welsh n'existe pas. Regardez le verset 4. Et déjà, verset 1. On peut simplement prendre le verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. Regardez le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Verset 16. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez. Et enfin, fin du verset 20. Ne vous laissez pas imposer de tels règlements. Tout le travail de Paul dans cette partie, c'est de nous montrer comment résister au système qui s'élève contre la connaissance toute suffisante de Jésus. Les tentatives inacceptables de s'appuyer sur d'autres choses que sur lui seul. Prenez garde, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie. Et à la fin, il s'appuie sur des principes élémentaires et non sur Christ. Ce qui est intéressant, c'est que Paul nous montre que pour résister, une fois de plus, il n'y a rien de nouveau. Verset 9 et 10, et on les lit ensemble. Il s'appuie sur des principes élémentaires et non sur Christ, verset 9. « Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez été et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Le fait d'avoir, fin du verset 27 du chapitre 1, « Christ en vous, l'espérance de la gloire », lui en qui sont cachés, verset 3, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, c'est l'arme absolue pour tenir dans un monde qui cultive le rejet de Dieu et l'ignorance. L'arme absolue. Par Christ, Dieu nous donne tout absolument. Soyez fermement enracinés en lui. Je pense que c'est la proposition centrale de ce texte ici. On en parlait un petit peu avec Pierre/Caillou avant, on se disait, ouais, les versets 6 et 7. C'est sans doute la clé de toute la lettre même. Paul écrit ça, glorifie Christ, montre comment on résiste en gardant Christ au centre pour rester fermement enraciné en lui. D'abord, qu'aucun système au monde ne vous trompe, vous avez tout pleinement Christ. Versets 8 à 15. En quoi c'est nécessaire de rester enraciné en lui? Si Paul insiste aussi lourdement dans ses avertissements. Ici, vous avez vu, 3-4 fois au moins dans ce texte. Ce n'est pas parce que les Colossiens étaient des chrétiens immatures ou crédules. Vous avez vu que depuis le début, il a dit « Waouh, super ce que vous faites !»« Excellent, ça me réjouit !» C'était des bons chrétiens déjà affermis. Si Paul fait ça, même aux Colossiens, c'est en raison de la puissance d'attraction des traditions et des systèmes du monde. Même si on sait très bien qu'à la lumière de Jésus-Christ, ces puissances du monde sont, c'est comme si tu allumais une lampe de poche en plein soleil, à midi, en plein été, c'est-à-dire c'est vraiment inutile et c'est vraiment ridicule, même si on sait ça, à nos yeux pécheurs, dans l'obscurité du monde, dont Paul a déjà parlé, il nous a transportés de l'obscurité dans le royaume de son Fils, dans cette obscurité-là, ces lampes de poche-là constituent un réel danger et un réel pouvoir d'attraction, qui ont le pouvoir de détourner notre attention de Jésus seul. À toute nouvelle mode, toute nouvelle pensée ou philosophie qui voudrait m'attirer, je dois opposer le verset 10, première partie. J'ai tout pleinement en Christ. Qu'est-ce que tu veux me proposer de plus ? Moi, j'ai quelque chose à te proposer. Mais toi, tu n'as rien à proposer de mieux et de plus. À tout système qui voudrait, comme des centaines et des milliers d'autres hommes, me rendre captif, je dois lui opposer la fin du verset 10. Il est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Je lui appartiens, j'appartiens à son pouvoir. Je ne laisse pas d'autres pouvoirs avoir une puissance sur moi. J'ai tout pleinement en lui. Il est le chef de toute autorité, de tout pouvoir. La tradition mensongère des hommes s'estompe à la lumière éternelle de Christ. Et l'ancienne promesse ne trouve son accomplissement qu'en Christ, nouvelle alliance. Pourquoi Paul dit ça ? Vous n'êtes pas posé la question à la lecture ? Pourquoi il parle de circoncision là au milieu ? Ça ne nous concerne pas, en plus, pas les Colossiens non plus. La plupart des Colossiens étaient comme nous. Qui est juif ici ou d'origine juive ? Une. On est une grande majorité de personnes qui sont non-juives ici, comme les Colossiens. Comme les Colossiens. Mais pourquoi est-ce que Paul s'inquiète ? Et pourquoi est-ce que les Colossiens sont attirés par la lumière qui vient de personnes qui viennent de l'ancienne alliance ? Et peut-être contrairement à toi, qui n'étais pas chrétien encore, et qui fréquentait l'Église. Parce que historiquement et bibliquement, c'est aux Juifs que le Dieu vivant s'est révélé. C'est au peuple juif que le Dieu vivant a donné ses promesses, ses alliances, sa loi. Et ultimement, c'est aux Juifs qu'il a donné le Messie, le roi sauveur, pour libérer le peuple de ses péchés. Le salut vient des Juifs, dit Jésus, dans Jean 4. Alors du coup, je ne sais pas si tu as déjà été dans une soirée où tu n'es pas sûr que tu as été invité. dans mon premier poste à Mont-de-Marsan, dans les Landes, on s'est rapproché pas mal du préfet des Landes, parce qu'on avait nos enfants dans la même classe, et on s'est invités mutuellement. Et puis aussi, j'ai reçu un carton d'invitation sur les vœux du préfet des Landes. Ça n'est jamais arrivé. Et souvent, les évangéliques, ou même les pasteurs, curés, tout ça, ne sont pas invités à ce genre de choses, sauf maintenant où ça commence à venir. Alors j'ai reçu ça, je me suis dit, bon, je vais y aller, je suis bien habillé, là, je descends, ça c'était en bas, tout en bas, et j'arrive à la préfecture des Landes, et puis là tu réajustes ton costard, tu mets ta main sur l'invitation, tu la ressors, tu la manques au vigile. Et en fait, tu te rends compte que tu es le seul à le faire, parce que tout le monde est juste invité, il rentre. Mais toi, comme tu n'es pas sûr, tu ressors ton invitation, je suis vraiment invité. Hein. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé dans une préfecture. Moi, j'étais vraiment dans mes petits souliers. C'est peut-être ce qui se passe quand on a bien compris les privilèges extraordinaire que Dieu donne au peuple juif. C'est au peuple juif que Dieu a donné cette invitation et c'est au peuple juif que Dieu a donné le Messie. Et il se peut que tu ressentes un peu ça quand tu réalises qu'en croyant en Christ, c'est aux promesses de l'ancienne alliance qu'il avait déjà promis que Dieu t'intègre. T'as intérêt à être sûr de ton invitation. Voilà pourquoi au verset 25-27, Paul nous donne quelques petites choses là-dessus. De la fin du dernier chapitre. C'est dès de l'Église que je suis devenu le serviteur, j'ai été chargé par Dieu de vous annoncer le pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, verset 27, 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, les païens, l'espérance de la gloire. On peut douter de notre invitation, mais là, les copains, c'est Paul, apôtre, qui a été mandaté par le Dieu vivant et vrai, par Jésus-Christ, de dire à l'Église, c'est pour vous aussi. Que cette invitation la garde dans votre cœur, elle est sûre et certaine. Quand Dieu te dit, tu as tout pleinement Christ, vous avez tout pleinement Christ, c'est vraiment tout. Et les versets 11 à 15 du chapitre 2, cette fois, nous le montrent bien. La circoncision, c'est le signe que Dieu a demandé à Abraham pour manifester dans le corps de chaque mâle dans le peuple juif que son peuple fait désormais partie d'une alliance avec lui. Et j'aimerais suggérer que le fait d'enlever le prépuce de chaque mâle manifeste qu'il faut enlever quelque chose pour être pur devant Dieu en répondant en réponse à ce qu'il fait pour son peuple. J'y reviens tout à l'heure. C'est le signe de l'alliance. Et avec cette alliance, une promesse extraordinaire qui est répétée partout dans la vie d'Abraham. Voilà la promesse qu'il donne, c'est au début du chapitre 12, et vous pourrez y retourner, mais je le résume ici. Il promet à Abraham une terre, il promet à Abraham une descendance nombreuse, il promet à Abraham une relation spéciale et unique avec lui, que personne d'autre ne peut avoir, et il promet à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Quatre points, la terre, la descendance nombreuse, la relation spéciale et toutes les nations. Et maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quand est-ce que cette promesse s'est réalisée? Quand est-ce qu'elle s'est réalisée dans l'histoire d'Israël? Est-ce que c'est au temps d'Abraham? Absolument pas. Relisez l'histoire d'Abraham. Abraham, le seul espace de terre qu'il a acheté, c'est la grotte de Machpéla, où il a enterré sa femme, il a été enterré aussi ensuite. Je pourrais continuer encore. Dans Hébreux 11, il est dit que cet homme, il est mort sans avoir vu ce qui lui avait été promis. Mais il a cru par avance que ça allait arriver dans son avenir. On continue dans son avenir. Quand est-ce que cette promesse de l'alliance a été donnée à Abraham? Au temps de Moïse, peut-être? Le peuple qui sort, qui rentre dans la terre promise, qui... Non ! Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse ?
Le veau d'or,
etc. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais toute une génération a été disqualifiée. Même Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Donc, ce n'est pas au temps de Moïse. Est-ce que c'est au temps de David et Salomon, les deux plus grands rois de l'histoire d'Israël ? Oui, avec un bémol. Je m'explique. Je pense que c'est au temps de Salomon que Dieu montre à quel point le fils de David va vivre quelque chose de particulier. Le fils de David, il a la terre entière, toute la Palestine, enfin, ce qu'on appelle ici. Entièrement, il est le roi de cela. C'est son père qui l'a conquis, David. Une descendance nombreuse. Il y a tellement nombreuse que la descendance du peuple d'Israël déborde au-delà du Jourdain. Il a une relation spéciale et unique avec lui. Salomon parle avec Dieu. Dieu lui dit, en songe, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je te le donnerai. Il dit, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple dans ta crainte. Relation spéciale, inégalée. Point 3. Et quatrième chose, par lui toutes les nations sont bénies. Et on le voit quand ça? Quand les nations viennent vers Salomon. Oui, dans la reine de Saba. Toutes les nations convergent vers la gloire du fils de David. Mais dans le même règne, les quatre points sont disqualifiés. La terre est séparée en deux parce que Salomon s'est détourné de Dieu. Il met en péril la relation particulière. Tout part en live parce que le peuple et la descendance n'est plus unis. Il va y avoir 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. Le peuple va être déchiré. Dieu déchire en jugement son royaume. Et à la place d'avoir les nations qui convergent vers lui, Dieu suscite des ennemis contre Salomon. Donc on doit se dire, quelque part, ça doit être le fils de David, mais ça ne peut pas être Salomon, on le constate. Quand est-ce que la promesse faite à Abraham s'accomplit? Du temps de Jésus? Pas plus. Je cite Jean-Baptiste qui parle au responsable du peuple dans Matthieu 3. « Produisez du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alors quand est-ce que la promesse de l'alliance que Dieu a faite à Abraham s'accomplit? Vous voyez où je veux en venir, j'espère. Vous voyez en qui, à qui je veux. La réponse, on l'a sous les yeux, les amis. Sous les yeux. C'est en Christ, son Fils, que Dieu a parfaitement réalisé la promesse faite à Abraham. En Christ, nous avons la terre. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont pour nous en Christ. Heureux, 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 car ils hériteront la terre. Bien sûr, une descendance nombreuse qui déborde les limites du peuple d'Israël jusqu'aux extrémités du monde. On l'a vu ensemble pour ceux qui étaient là en février, sur l'Interfac, au début d'acte. La relation spéciale. Mais bien sûr, Christ a une relation spéciale avec son Père. En lui, le Père a mis toute son affection. Et en Christ, nous avons une relation inégalée avec le Père. Troisième réalisation. Quatrième réalisation. Toutes les nations de la terre sont bénies par lui. Je viens de le dire là, mais on le revérifie dans qui nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on veut la preuve de l'efficacité totale de l'œuvre de Christ pour nous faire entrer pour toujours dans son alliance? Dans ce cas, il faut comprendre ce que veut dire la circoncision de Christ, qui est bien supérieure à la circoncision d'Abraham. On lit verset 15 au suivant. 11 et suivant. En Christ, vous avez été circoncis. D'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Bien sûr, on était pécheurs. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Voilà ce que produit la circoncision de Christ. Ce n'est pas juste un morceau de chair qui dit que quelque part on a une impureté qu'il faut enlever pour appartenir à l'Alliance. C'est le corps entier qui doit mourir en Christ, dans la circoncision de Christ, pour que tout notre péché soit détruit. Et ça se passe où, ça? À la croix. Et quand on vit dans le cadre de l'Alliance maintenant, on ne vit pas grâce à la circoncision d'Abraham. C'était juste l'ombre des choses à venir. On vit ça dans la circoncision de Christ, dans l'Alliance éternelle faite à Abraham, que Dieu accomplit en Christ. C'est ça qu'Abraham voyait par avance dans la foi. Et c'est ça notre assurance. La question c'est, est-ce qu'il peut exister une autre manière, même au cœur du peuple juif, une autre condition meilleure que celle en Christ? Non. D'où l'avertissement de Paul à partir du verset 16. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez. Autrement dit, c'est notre point 2, qu'aucune religion du monde ne vous juge. Vous êtes mort avec Christ et unis à lui. Quelques mots sur l'anachronisme des religions. Elles sont impuissantes face à la cohérence du corps de Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous tous qui croyons en Dieu, nous sommes son peuple. Et toute notre cohésion, notre force, notre pérennité, l'Église la tient grâce à la circoncision de Christ. C'est ce que montre Paul dans ce qu'on vient de lire. En résumé, tenter d'ajouter quelque chose à la perfection de Christ, Même un truc aussi fou que le culte des anges, dont il parle juste après, quitte à un signe d'orgueil et de pensée, tenter de revenir en arrière sur des pratiques glorieuses du passé qu'on vient de voir, et ça va, tout ça. Elles ne sont que l'ombre des choses à venir. Mais en faisant ces deux choses, ajouter quelque chose, revenir aux choses du passé, on manifeste qu'on est complètement anachronique là-dessus. Parce qu'on met en péril la cohérence et la cohésion du peuple de Dieu que Dieu a accompli en Jésus une fois pour toutes. On revient en arrière avant la croix. On met en péril cette cohérence parce que si on met en péril Christ, on déconnecte la tête du corps. Vous êtes déjà essayé ? Faut pas. Ouais. La mort cérébrale. Hein ? Que le Seigneur nous garde de toute tentative de mise à mort cérébrale. C'est Christ, la tête, qui assure la cohésion du corps. Verset 19. Hein ? Il le dit très bien, d'une très belle manière. C'est une collée, croissance qui vient de Dieu. Quand on fait ces choses-là, qu'on ajoute des petites spiritualités à Christ, on met Christ en péril et on tente une mise à mort cérébrale du corps. Chercher autre chose de plus cohérent, c'est contester la suprématie de Christ. Et ça, il faut qu'on le garde. Alors, contester la suprématie de Christ, c'est penser qu'il pourrait y avoir une autre réconciliation. Non, je me disais qu'on peut se sentir parfois un peu seul face à la contestation du christianisme ou bien face à de faux christianismes qui ont l'apparence du christianisme mais qui ne sont pas le christianisme, ou encore face aux autres religions du monde. C'est un petit peu Cabrel. Je prie Vishnu, Jésus, Bouddha, que sais-je. On peut nous-mêmes se sentir un peu seul au milieu de ces tentatives d'ajout, d'autres voies. Mais par la foi et le baptême, Dieu nous a circoncis en Christ. On est rattaché à lui, on est mort avec lui, uni à lui. On est intégré par la volonté de Dieu, verset 19, en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'on ne va pas aller revivre pour autre chose. On ne va pas aller revivre pour autre chose. Non seulement aucune religion ne peut faire mieux que Jésus-Christ, mais aussi et surtout aucune religion du monde et de l'histoire n'a le droit de contester la seigneurie de Jésus-Christ. On reviendra là-dessus tout à l'heure, sur la nécessité de dire les religions ne sont pas équivalentes. Les foi dans le monde ne sont pas équivalentes. Les préceptes et les religions sont un orgueil du monde contre Christ, notre chef. C'est dans ce même esprit que Paul conclut ce chapitre. Hein. Quoi de commun entre les préceptes des hommes et la volonté de Dieu ? C'est juste des préceptes, nous dit Paul. Quoi de commun entre le petit orgueil d'autosatisfaction humaine, dans sa petite pratique et sa petite gloriole, et la gloire éternelle de Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quoi de commun ? Et pourtant, on se laisse prendre. Mais qu'on ne se laisse pas prendre. Que personne ne vous trompe, dit Paul. Que personne ne fasse de vous sa proie, nous dit Paul. Que personne ne vous juge, nous dit Paul. Et après avoir été un petit peu trop loquace, je vous propose quelques mots de conclusion. Il est nécessaire, en réponse à la mission que Dieu nous donne, que Dieu a pour nous, de pratiquer Christ et aucune autre religion. Il faut pratiquer Christ. C'est le meilleur antidote contre le poison des religions. Enraciné en Christ, versets 6 et 7. Nous voilà armés pour résister, pour tenir à notre poste, comme le Maître nous demande. On va voir un romanche, pour certains. Quelqu'un a vu Le jour le plus long, je pense, le film. Le jour le plus long, D-Day. Enfin, c'est un vieux film, en fait, mais qui parle du débarquement. Et il y a une scène extra qui revient, qui est récurrente dans le film, où il y a un commando parachutiste qui doit prendre un pont, empêcher les Allemands de le détruire, pour que les troupes du débarquement qui ont débarqué passent ce pont et aillent prendre une poche aux Allemands. Et la dernière consigne du chef, je ne me rappelle plus quel grade, on va dire du lieutenant-colonel, il leur dit, vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Et quand on les voit se battre, ils perdent beaucoup d'hommes, parce que les Allemands sont très coriaces, c'était une poche extrêmement bien gardée. Il y a cette voix qui répète, vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Qu'est-ce qui les a fait tenir? Juste en se disant, voilà, super arme, sympa. Oh, excellent, ça marche en plus. Ce qui les faisait tenir, c'est la cause qui défendait la puissance des bateaux qu'ils avaient vus derrière, qui étaient en train de couvrir l'horizon et qui étaient en train d'approcher les côtes. Et sachant ça, bien qu'ils ne voyaient rien du tout de ça encore, eux, ils ont été parachutés de nuit, c'est ce qui les faisait tenir en disant, on veut mettre fin à la tyrannie et on veut résister pour que les troupes passent. Et ils ont perdu beaucoup d'hommes, mais ils ont tenu pour connaître la fin de l'histoire. Notre mission est un peu semblable. On est une génération, dans toutes les générations qui se succèdent jusqu'au retour de Christ. Et à chaque génération, Dieu dit, en Christ, vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. On a intérêt de savoir la puissance de feu et la victoire de Christ derrière qui arrive sur les plages du débarquement pour être sûr qu'on a de quoi tenir. On a de quoi tenir. Alors, dernière question. Est-ce que le refus déterminé de ne prend pas, ne goûte pas, ne mange pas, il a très bien lu Nicolas Alban, hein, du verset 21, est-ce que ça veut dire que du coup on peut faire ce qu'on veut? Est-ce que c'est ça la liberté chrétienne? Je fais ce que je veux, je ne prends pas, je ne goûte pas, je n'obéis pas. On sent bien que ce que je viens de dire, ça sonne faux. On sent bien que ce n'est pas cohérent avec Jésus. Mais on va voir comment Paul nous invite à passer au vestiaire demain. Passer au vestiaire, vous pouvez déjà un peu, entre guillemets, tricher et lire la suite du texte, de voir ce que je veux dire par là. Paul nous invite à nous dévêtir de nos habits sales, plein des péchés d'autrefois, sans Christ, pour revêtir Christ dans des habits nouveaux de justice. Mais on va voir que ça prend du sens, là, au chapitre 3. On va s'arrêter là. Il faut qu'on fasse une pause à tout prix, là. Dans le silence, je vais conclure là, mais je vous propose de méditer dans son silence sur les versets 6, 7, 9 et 10. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Te prions, Seigneur, que tu nous aides à accomplir cela. Nous avons une responsabilité devant toi chacun. Mais quelle grâce de nous savoir dans un cadre sécurisé par toi. Quelle grâce de savoir que les forces en mouvement dans l'invisible sont en train d'apporter ton avènement définitif sur la terre entière. Christ est Seigneur et nous avons tout pleinement en lui. Que cela, Seigneur, nous donne de renourrir toujours notre espérance, de faire comprendre en quoi nous ne pouvons pas être enracinés en autre chose, en quelqu'un d'autre que Jésus-Christ ton Fils, et que, Seigneur, nous sachions puiser en lui tout ce qu'il faut pour résister, pour la gloire de ton nom, dans l'attente de ton retour. Amen. Amen.